9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Grégory Bassot.
Bonjour.
Grégory, le grand public vous connaît sous le nom de Greg le Millionnaire. C'est en 2003, une télé-réalité TF1 dans laquelle vous faisiez passer pour un héritier plein aux as qui cherchait l'amour. Vous étiez dans une immense villa avec une vingtaine de prétendantes et à la fin du jeu, celle qui croyait être l'heureuse élue, découvrait que vous n'étiez pas du tout millionnaire mais un simple maçon. Vous êtes arrivé toutes sortes de péripéties dans votre vie et vous revenez à la télé-réalité sur Énergie 12 pour la 4e saison des Vacances des Anges. Ils sont 16 dans une villa, 8 garçons, 8 filles, toutes les filles en bikini, tous les mecs en torse nu avec des pectoraux de folie et vous-même, vous êtes le seul à avoir un nom de famille dans l'émission. Tous les autres n'ont que leur prénom. Quel effet ça vous a fait de vous retrouver là?
Oh, ça m'a fait bizarre parce que ça faisait un moment que j'avais quitté les caméras et puis surtout les émissions de télé-réalité. Je voulais plus être candidat dans une émission de télé-réalité.
Ouais.
Donc revenir en tant qu'animateur, parce que c'était un rôle d'animateur finalement, c'était plutôt cool, plutôt positif et intéressant pour moi. J'ai eu le trac au début, je vous avoue, le premier passage, avant d'ouvrir la porte, j'étais bien. Et puis dès que j'ai ouvert la porte et qu'ils m'ont sauté dessus, j'ai eu une grosse montée d'adrénaline. Et puis j'ai pris une grande respiration et puis ça s'est bien passé finalement.
Alors, les anges sont comme vous d'anciens d'autres émissions de la télé-réalité. Je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas que c'est cette émission, la fameuse, qui a révélé Nabila et son non moins fameux nom mais Allo Quoi. Là, c'est quoi l'enjeu de l'émission? C'est quoi votre rôle? Vous êtes le porte-parole du propriétaire,
voilà,
c'est ça?
Voilà, je suis le porte-parole, l'intendant du propriétaire et c'est moi qui suis ses yeux et ses oreilles et qui viens pour les recadrer, leur faire faire des missions, des tests de motivation pour qu'ils puissent passer vacanciers ou rester vacanciers et ne pas être travailleurs.
Parce qu'il faut expliquer, il y a un mensonge qui a été dit par la prod aux candidats.
Voilà.
C'est qu'ils sont persuadés de venir en vacances et se faire filmer avec leurs histoires et leurs embrouilles habituelles. Sauf que la production, en l'occurrence la grosse équipe, c'est le nom de la boîte de prod, a inventé un dispositif assez retors. Il y aura deux groupes, il y aura les vacanciers et les travailleurs.
Exactement, il y a un twist, ouais. Ils ne s'y attendaient pas vraiment. Bon, certains s'y attendaient peut-être.
C'est quoi le principe alors?
Ben, y en a qui vont devoir travailler, qui vont devoir aller faire plein de petits jobs à l'extérieur de la villa, bien galère, régulièrement. Et être au service des candidats vacanciers dans la villa aussi. Et comme ils n'ont pas forcément de bonnes relations avec certains, ça peut créer un peu des tensions.
Parce qu'il faut expliquer, il n'y a pas assez de chambres, il n'y a pas assez de couchage dans la villa pour tout le monde.
Il y a trois suites pour 8 vacanciers et le reste, tout le monde est dans un dortoir un peu pourri, faut le dire.
Dans des bungalows avec des lits superposés et il doit faire le ménage,
voilà.
Habillé dans une autre tenue.
Voilà, habillé en travailleur.
Alors pour comprendre quand même l'enjeu de l'émission, on va entendre la première discussion entre trois garçons. Ils arrivent sur une plage de rêve, ils sont dans une Jeep.
Toto ! Oui ? J'ai toujours cette question en tête quand tu es en vacances. T'es en couple, célibataire ?
Alors, à ton avis, je vais te reposer une question pour une question. Est-ce que quand moi, Toto, je vais en vacances, je suis en couple ?
Non, mais tu le deviens souvent.
C'est une question rhétorique. Ouais, mais j'aime bien le devenir sur le moment, rencontrer quelqu'un qui puisse faire battre mon cœur, énerver et tout. Par contre, attention, le maître mot de ces vacances, c'est table rase du passé. Brah !
On va rigoler, voilà, moi j'attends de voir Alan, célibataire.
Moi je suis célibataire, frérot, je vais rencontrer des filles sympas. Hein.
Ben, ça tombe bien, moi.
Il va y en avoir. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu.
Non mais en gros, l'enjeu pour eux, c'est
de pécho. Ouais, l'enjeu pour eux, c'est clairement de pécho. Là. Surtout Alan, il n'arrête pas en fait. Il passe de l'une à l'autre, il fait que butiner. Tout.
Non mais racontez pas toute l'émission, moi j'ai vu que le premier épisode.
C'est rigolo. Ouais.
Alors, dans l'imagerie populaire, les gens de la télé-réalité sont des bas du front, qui n'ont pas de cerveau. Que ce soit vrai ou faux, il faut reconnaître que le montage de l'émission pousse dans ce sens. Je vais prendre par exemple,
c'est souvent le cas, ouais.
Maïsan, c'est une candidate. On la voit sur un bateau, elle est en maillot de bain, normal. Mais surtout, elle révèle qu'elle a eu une petite histoire avec un des candidats, Alan, parce que ce sont des anciens de la télé-réalité, donc beaucoup se connaissent précédemment. Et elle explique, Maïsan, ce qu'elle trouve à Alan de séduisant.
C'est vraiment quelqu'un que j'aime trop, mais vraiment trop. Genre, on a trop le même humour, le même... Je peux pas dire la même façon de penser parce qu'il pense pas très souvent à Alan. Mais genre, c'est une des rares personnes qui me dérange pas.
Il pense pas très souvent.
Non mais elle a d'énormes punchlines. Elle a d'énormes punchlines, mais elle l'aime beaucoup.
C'est réducteur pour lui et c'est réducteur pour elle. Dire qu'on adore quelqu'un qui ne pense pas, ça veut dire qu'on est soi-même quelqu'un qui pense peu.
Ouais. Oh, pourtant, elle est loin d'être idiote et apparemment, d'après ce que la prod nous a dit, elle aurait 147 de QI, cette petite. Ouais.
C'était ma question. Pourquoi est-ce que ce sont toujours ces montages-là qui montrent les candidats comme des imbéciles qui sont mis à l'antenne?
C'est les prods qui aiment bien jouer là-dessus aussi un peu, faire passer de temps en temps les gens pour.
Est-ce qu'ils en souffrent de passer pour des cons?
Bon, on passe pas forcément pour des cons.
Est-ce qu'ils savent que c'est le jeu?
Déjà, ça dépend de l'interprétation des gens devant leur écran de télé. Il y a des gens que ça va faire rire, il y a des gens que ça va énerver, il y a des gens qui vont trouver... C'est un divertissement, donc ils veulent faire rire les gens avec la prod. Après, les candidats jouent aussi souvent bien le jeu, j'avoue.
De jouer à l'idiot.
Il y en a qui le font, ouais. Il y en a qui en rajoutent un peu, ouais.
Alors, vous l'avez dit, cette année, les candidats doivent travailler. Leur premier travail, là, par exemple, en l'occurrence, la première épreuve, il y a deux groupes. Un groupe doit vider le poisson d'un pêcheur sur la plage pour qu'il puisse le vendre ensuite.
Ouais.
C'est à la République dominicaine, je ne l'ai pas dit, donc c'est pour ça que vous allez entendre de l'espagnol. C'est le pêcheur qui leur parle en espagnol. Il s'agit d'ouvrir le poisson, de lui sortir les entrailles, les boyaux. Les garçons ne sont pas franchement réjouis, mais ça
passe.
Rien
de bien compliqué en soi. Hein.
Le problème sont les filles. Ça les met, les filles, dans des états pas possibles que je ne vais pas qualifier. État que je vous laisse découvrir.
On vient d'arriver, tout propre, tout beau, et on va nettoyer du poisson ? Mais ça va pas ou quoi ?
Je peux pas.
Oh, ok, on va travailler. Ah. Ok, tout.
Mais non.
On a vu les tripes, là.
Ah, Pépi.
C'est con la mano. Con la mano.
Tiens là-dessus.
Mais c'est même pas que je suis terrifiée, je suis tétanisée. Je tremble, tout le monde me fait flipper, les poissons, c'est horrible.
Tu peux le faire, vraiment.
J'ai envie de flipper. Mets-toi la main, mets-toi
la main. La vie de ma mère, je préfère crever que porter ça.
Vous n'êtes pas le producteur, mais franchement,
non,
c'est cri, c'est hurlement. Quelle image ça donne de la femme ?
Oh, moi, personnellement, quand je les vois, ça me fait rire, parce que c'est... Vous savez, ils en rajoutent beaucoup. Aujourd'hui, il faut dire un truc, c'est que les candidats, ils n'ont plus la spontanéité qu'on avait, nous, quand on découvrait la télé à mon époque, parce que c'était nouveau et on était un peu naïfs à ce niveau-là. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu un vrai travail à part entière pour ils enchaînent 2-3 émissions dans l'année et en fait, ils jouent le jeu, tout simplement.
Je vais poser la question du sexisme différemment. Ouais. Pourquoi il n'y a que les filles qui passent pour des hystériques et pas les types ?
Malheureusement, c'est... Il y a des filles très calmes et puis il y a des filles très hystériques et ça, par contre, elles en rajoutent pas et des fois, il y a une sale ambiance et elles s'énervent un peu.
J'aimerais bien savoir si Grégory Basso en a rajouté quand il faisait la télé-réalité. C'est la question que je vais lui poser. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Grégory Basso, alias Greg le millionnaire, au début des années 2000, il est dans la nouvelle saison Les Vacances des Anges sur Énergie 12. C'est pas tout à fait vous qui présentez l'émission, mais vous êtes une sorte le patron de la villa.
Ouais. C'est un rôle d'animateur, hein. C'est moi qui anime tout ce qui se passe en fait. Hein.
Alors on a compris qu'il y a quelque chose de mensonger dans le titre, le mot vacances. Écoutez le début de l'émission avant que les candidats n'apprennent ce qui les attend.
Bienvenue à la Sterenas, voilà, pour les vacances des années.
À la Sterenas.
On va se régaler.
Ça fait trop carte postale.
C'est le début des vacances.
Enfin en vacances.
Enfin
en vacances.
Des vraies vacances.
Il y a deux filles qui disent enfin les vraies vacances. Vous le voyez vraiment comme ça ou c'est un travail ? Je vous pose la question parce que désormais, la télé-réalité a été requalifiée comme un travail.
Bah parce que c'est un travail, hein. C'est des émissions, ils font des tournages qui commencent parfois à 6h, 8h du matin, ils finissent à 2h du mat, bon, avec des arrêts, des pauses et compagnie, mais aujourd'hui ils ont des contrats de travail, hein, tout simplement. Hein. C'est considéré comme un boulot et ils sont beaucoup moins spontanés aussi peut-être. Et c'est peut-être aussi grâce à ça et à cause de ça qu'ils jouent un peu plus le jeu, qu'ils en rajoutent un peu, parce que puis voilà, puis ils aiment bien faire le buzz, ils savent que faire le buzz, ça va leur donner de la visibilité sur les médias. Les médias, ben, ça va monter leur Insta, etc. Enfin, c'est un cercle. Quoi.
Vicieux ou vertueux ?
Je sais pas moi de critiquer ou quoi que ce soit. Moi, je viens de la télé-réalité. Je pense que c'est un divertissement. Je suis pas là pour casser les pattes des candidats. Au contraire, j'étais là avant eux. Et c'est grâce à eux qu'il y a quand même des boîtes de prod qui bossent, des chaînes de télé qui diffusent, des gens qui prennent du plaisir ou pas devant leur écran de télé. Et je pense qu'il faut garder du recul et regarder ça avec un esprit bon enfant.
Comment s'est faite la rencontre avec la production, la grosse équipe ? C'est parce que vous habitiez, si je suis bien informé, maintenant La Réunion et que vous avez un restaurant à La Réunion.
C'est pas parce que j'ai un restaurant à La Réunion, enfin il est pas à moi, je suis directeur seulement. Ouais. C'est parce que je vis à La Réunion depuis 2 ans et un des producteurs, Thibaut, à l'époque, m'appelle pour me dire comment c'est La Réunion, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ce serait bien pour un tournage d'émission de télé vu que tu connais quand même un peu. Et je lui ai dit La Réunion c'est magnifique, t'as des paysages de rêve, tu manges bien, les gens sont gentils, puis c'est Jurassic Park un peu quand tu vas dans l'île, c'est impressionnant en fait, c'est magnifique, hein, donc tu aurais fait des images de fou. Ils m'ont dit ok, ils me rappellent, ils me demandent de leur trouver une belle villa. Parce qu'apparemment, ils avaient cherché depuis un moment, ils n'en avaient pas trouvé une.
Et là, l'émission doit se tourner à La Réunion, mais il y a des participants, dit la presse, de l'émission qui ont été mêlés à des bagarres, notamment avec le maire d'une commune de La Réunion. Du coup, le tournage a été annulé. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, comme je n'arrête pas de le dire, je n'étais pas là. Mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu dans les vidéos qui tournaient, de ce que la prod après m'a expliqué, puis des gens aussi qui étaient sur La Réunion... Il y avait une nounou qui était en train de faire le tour des tables parce que des gens prenaient des photos au loin de Ricardo et Neuda. Et apparemment, ils avaient déjà eu un petit problème avec leur fille, donc ils ne voulaient pas. Donc elle demandait gentiment, elle passait aux tables. Je la crois, parce que quand on dit que c'est les nounous, en général, ils sont très polis. Ça s'est bien passé à certaines tables, jusqu'à ce qu'elle arrive à celle d'un monsieur qui, apparemment, personne ne le savait, était le maire de Saint-André. Et ça s'est très mal passé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Ça s'est levé, ça
bagarre
s'est chauffé.
Bagarre générale, a dit la presse.
Ben oui, la presse a dit bagarre générale, mais bon, ça a quand même été classé sans suite. Donc, c'est que ça devait être plus une bousculade qu'autre chose. Et je pense que celui qui a le plus morflé dans l'histoire, c'est Ricardo, finalement, parce qu'ils lui sont tombés à 5 dessus. Et,
Ricardo,
on le voit bien dans les vidéos.
Des candidats.
Un des candidats, ouais.
Il faut raconter aussi votre parcours particulier. Vous le racontez vous-même dans un livre. Le public ne le savait pas lorsque vous étiez Greg le millionnaire, mais vous avez un passé de détenu. Vous avez été condamné pour trafic de drogue en bande organisée. Vous avez passé plus de 4 ans en prison après une cavale à Barcelone. La question est simple, on n'est pas une émission justice, on est une émission média. Est-ce que TF1 connaissait votre passé quand ils ont lancé l'émission Greg le millionnaire ?
Pas du tout, parce que quand on m'a demandé mon
quasi-judiciaire, normalement il y a un extrait de quasi-judiciaire qu'on demande.
Ouais, on me l'a demandé, mais en fait ça, la chance que j'ai eue, c'est
que vous ne l'avez pas donné.
Ben non, parce que ça s'est passé tellement vite. Déjà les 2-3 premiers jours, j'ai hésité, je ne voulais pas le commander parce que je me suis dit si je leur donne, ben c'est mort, ils ne vont pas me prendre.
Ouais.
Et puis après, ils m'ont vu le lundi, le jeudi signé, et le lundi suivant, j'étais en tournage. Et après, ils ont zappé, et comme ils ont zappé, moi j'ai laissé traîner. Et je les ai prévenus, moi, 10 jours avant la première diff, parce que j'ai prévenu Angela, en fait, Laurenté, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, il y a un problème, j'ai fait ça, ça, ça. Elle m'a dit, ok, chérie, on va s'en occuper.
Et qui a fait fuiter l'info dans la presse ? Parce que je me souviens que les audiences étaient pas mal.
C'est des mecs qui ont dû me balancer à l'époque, déjà, je pense.
Je me souviens que les audiences étaient pas mal. Et le jour où on a appris que vous étiez mêlé à des trafics d'ecstasy, de cannabis, de cocaïne, les audiences ont monté en flèche.
Ouais, bizarrement, les gens aiment bien les bad boys. Et puis bon, j'étais quand même un bel exemple de réinsertion aussi. J'avais fait des conneries, j'avais payé ma dette à la société. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Il y a un moment, il y a prescription, quoi.
Quel retour vous avez de cette émission, celle-ci, Les Anges de la télé-réalité ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous arrêtent dans la rue ?
Avec le masque un peu moins, je vous avoue.
Ouais.
Mais sur les réseaux, j'ai beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est
parce
génial.
Que je vais dire, l'audience n'est pas phénoménale. Les Vacances des Anges sur NRJ 12, premier épisode, ça a été vu par 165 000 téléspectateurs, 1,2% de part de marché. C'est pas énorme.
Ouais, c'est le double de l'année dernière, quand même,
mais
déjà.
Mais ce qui est très impressionnant, c'est sur les réseaux. Les Vacances des Anges en 2020 sur NRJ Play, sur les différentes plateforme, 286 millions de vues. La communauté comporte 2,8 millions et la chaîne YouTube officielle des Anges a dépassé le milliard de vues.
Mais non.
De vidéos. Le milliard de vues.
Ah bah
vous allez
pas,
voir,
hein.
Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Grégory Basso. Je rappelle, la nouvelle saison des Anges, Les Vacances des Anges sur NRJ 12, c'est à, je l'avais noté, je ne le retrouve plus.
18h15.
Merci de m'avoir aidé sur ce coup-là. Merci beaucoup.
Merci.
Culture Média continue. Il est 9h57. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain et Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Vous savez quoi ? Spécial Vacances des Anges. Vous pouvez rester là si vous voulez, Grégory Basso. Nos invités, c'est Sylvain Dutu et Florent Dasque. On les connaît surtout sous le nom de leur groupe Boulevard Désert. Leur nouvel album vient de sortir, il s'appelle Loin des yeux. Et puis dans Les Indispensables, un biopic sur la plus célèbre proxénète de Paris dans les années 60 et une chanteuse qui oscille entre rap, électro et pop. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.